Bien, merci de vous être libéré pour cette séance du conseil municipal. Alors, on a pas mal de collègues absents qui ont donné des procurations. Marie-Alix Bourbiot à moi-même. Soukaina Bounik à Monsieur Hadji Alifa. Aurore Margaillan à Isabelle Moreau-Joanet, Lorraine Modica à Nicolas Poyeux qui arrive, Véronique Drapeau à Serge Gatier, Fabrice Mossi à Dominique Fier, mais si j'ai bien compris, Dominique Fier n'est pas là lui-même, donc cette procuration s'annule. Avant de rentrer dans l'ordre du jour, je voudrais juste, en votre nom à tous, nous réjouir de l'excellente, je trouve, ambiance dans laquelle s'est déroulée les élections, se sont déroulées les élections sénatoriales, qui, je trouve, ont été très fair-play, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Et je voulais, puisqu'il y a deux de nos collègues qui étaient engagés dans cette élection, les remercier et les féliciter pour cette bonne tenue des échanges et des débats. On a un conseil municipal relativement long, en même temps, je trouve, relativement formel, donc peut-être qu'on devrait pouvoir aller assez vite, mais on prendra évidemment le temps qu'il faut. Vous avez sur vos tables, pour commencer, le traditionnel rapport qui fait état des décisions que le maire a prises. Les décisions que le maire a prises, ça doit être ça le bon accord, en vertu des délégations que le conseil municipal lui a données. S'il n'y a pas de questions particulières sur ce rapport, il y en a une. André.
Oui, il est vieux celui-là. Juste l'avant-dernière délibération, la 58-2017, effectivement, qui concerne le diagnostic amiante de la maison d'en face, du bâtiment d'en face. On passe à un poil en dessous de ce qui est autorisé, 209 000, puisqu'on est à 200 000. Moi, je dirais simplement, ma chère amiante, quoi. Hein,
Ouais.
c'est...
Ah oui, ça c'est sûr.
Et plus généralement, est-ce que ces décisions, on pourrait les avoir un jour avant plutôt qu'à 6h30 en arrivant? C'est possible ou c'est pas dans le règlement?
J'en sais rien du tout. Ils n'étaient pas communiqués là sur Internet, ce
Non,
rapport?
non.
Non? On donne sur table, si on peut, moi j'ai pas du tout d'hostilité à ce qu'on vous les donne avant. Hein. Même 8 jours, il y a la plupart des trucs sont des décisions prises depuis longtemps. Merci beaucoup. Alors, Jérôme Darvet, qui devait nous présenter le prochain rapport, va arriver avec un peu de retard. Donc, je vous propose de passer directement au rapport numéro 3. On donnera la parole à Jérôme quand il arrivera. Et donc, le rapport numéro 3, c'est Nicolas Verriot qui nous le présente. Il s'agit de transférer à l'amiable et à titre gratuit, dans le domaine public communal, un certain nombre de parcelles sur la ZAC des bords du lac, Nicolas.
Oui, merci Monsieur le Maire. Donc effectivement, dans le cadre de la réalisation de la ZAC des bords du lac, l'aménageur s'est engagé à transférer à l'amiable et à titre gratuit à la commune des parcelles de terrain constitutives de voies telles qu'elles étaient définies par le plan d'occupation des sols en vigueur au début de l'opération. Le conseil municipal est donc invité à accepter le transfert gratuit dans le patrimoine communal de 22 parcelles, 6 dans le quartier de Puer, pour lequel vous avez le plan. Avec la délibération.
D'accord, merci Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport numéro 3? Pas de questions, pas d'opposition ni abstention, je n'en vois pas. Il est donc adopté à l'unanimité. Ensuite, Christelle Anciaux, toi tu nous parles d'une concession de longue durée de 2 places de stationnement que nous avons donc concédée. Christelle.
Tout à fait. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Maire. Donc, le Conseil municipal est invité à concéder pour 15 ans 2 places de stationnement découvertes privées, 6 rue Pierre Brachet à la société Edifim pour un loyer annuel de 4 000 euros.
Merci. Alors ça, c'est des rapports sur lesquels on aura probablement, je dis pas de plus en plus, parce qu'il y en aura, ça peut pas être à l'infini, mais on aura sans doute à se prononcer, parce que comme il devient quasi impossible de créer des places de stationnement dans l'hypercentre-ville alors que la loi le demande. Les concessions de longue durée semblent être une réponse possible. André ?
Oui, je suis allé voir moi la rue Pierre Brachet et j'aimerais simplement, parce que c'est pas l'explication dans le dossier qu'on trouve sur notre cloud, quel est le statut des 8 autres places de stationnement qui sont à côté ? Est-ce que c'est des particuliers ? Est-ce que c'est le même prix, le même statut, le même 15
Alors,
ans,
choses comme ça ? Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre précisément. C'est pas tout à fait le même statut parce que, si tu veux, normalement, on n'est pas sur des locations de longue durée. C'est de la location à l'année, non ? C'est quoi à l'année ? Donc avec des locations précaires, voilà. Donc avec des tarifs qui sont plus bas. Mais c'est les 10 places, on les a créées il y a combien de temps, Daniel ? Il y a 2-3 ans. Voilà, il y avait une espèce de friche à cet endroit-là. Donc ces 10 places qui sont créées depuis pas très longtemps et qui ont vocation à être louées à ceux qui veulent les prendre. On avait mis un tarif un peu élevé de mémoire sur cette affaire, ce qui fait que elles sont restées vides un moment parce que je crois que maintenant c'est tout bon, non ? C'est tout rempli ?
Il en reste deux.
J'achète.
T'achètes ? Non, ça se vend pas. Très bien. Sur ce rapport, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Non, opposition ? Non, abstention ? Aucune ? Génial. Je vous remercie. Merci Christelle. Alors ensuite, on a sur trois sujets un peu formels, mais qui sont importants au plan légal. D'abord, Marie-Pierre Montoro-Sadou nous parle de l'élaboration d'un plan communal de sauvegarde. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Marie ?
Oui, bien sûr, monsieur le maire. Donc, bonsoir à toutes et tous. La commune d'Aix-les-Bains est dotée d'un plan de prévention des risques d'inondation, que l'on connaît sous l'acronyme de PPRI. Dès lors, elle est tenue de se munir également d'un plan communal de sauvegarde, un PCS. Alors, qu'est-ce qu'un PCS ? Il s'agit d'un outil complémentaire au dispositif ORSEC pour aider le maire à apporter une réponse de proximité à tout événement de sécurité civile. Il concerne donc les mesures de sauvegarde de la population et uniquement cela. Mais il est essentiel, tout comme son élaboration dont il est demandé au conseil municipal de prendre acte par ses délibérations. Il faut retenir que sa mise en place est un travail de préparation à une situation de crise. Son élaboration concerne l'ensemble des services communaux. La démarche est aujourd'hui à son début, la commune ayant retenu il y a peu un cabinet d'experts pour l'accompagner dans sa construction. Un comité de pilotage sera constitué dans quelques jours sous la présidence de notre collègue Jean-Claude Cagnon. Les conseillers municipaux qui seraient intéressés à y participer activement pourront se faire connaître. Je dis activement parce qu'en fait, on va avoir très peu de temps. On devrait le terminer avant la fin de l'année. Donc, les réunions vont s'enchaîner. S'agissant de la population, elle sera informée sur les risques, l'organisation de crise, les consignes de sécurité grâce à un document appelé DICRIM. C'est une pièce vraiment essentielle du plan communal de sauvegarde. Et l'élaboration du DICRIM peut être subventionnée par l'État. Il vous est donc demandé, également à travers la délibération qui vous est proposée ce soir, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention pour cette élaboration.
Merci Marie. Est-ce qu'il y a des questions, Serge, là-dessus ?
Oui, bonsoir à tous. J'espère que tous ces plans de sauvegarde, de sécurité, de prévention permettront d'assouplir les conditions de construction. Où souvent on dit, mais non, vous êtes dans un terrain inondable, mais non, vous ne pouvez pas, vous risquez trop. J'espère que tous ces plans vont nous assouplir tout ça.
C'est bien essayé, mais je ne crois pas.
Non, mais aucunement, c'est vraiment pour préparer la population lorsqu'il y aura un risque très important. Il faut qu'on soit organisé, c'est un document qui est revu tous les 5 ans. Il faut bien sûr que cela vive pour que s'il y a un problème, il soit vraiment opérationnel. Et pourrait peut-être aussi être vu plus tard un rapprochement avec l'agglomération, puisque les autres communes, certaines, ont déjà un plan communal de sauvegarde pour que ça puisse aussi fonctionner bien tous ensemble.
Très bien. Merci. Tu voulais dire un mot, Marina ?
Oui, monsieur le maire, merci. Simplement, sous contrôle de Renaud Beretti, je voudrais souligner qu'un groupe de jeunes collégiens du collège Jean-Jacques Perret a travaillé donc sur les risques majeurs de la commune et nous ont produit un petit rapport très intéressant. Donc, on a eu l'occasion de les recevoir avec Renaud en mairie. Et donc, voilà, je voulais leur rendre quand même un peu grâce du travail qu'ils ont effectué, qui était un excellent travail et qui nous aidera d'ailleurs dans nos réflexions.
Tu veux peut-être dire qu'il faut que Jean-Claude programme une petite rencontre avec eux. Il y a peut-être des idées intelligentes et intéressantes. Vas-y, vas-y.
Oui, Marina a raison de le rappeler, c'est des élèves du collège Jean-Jacques Perret. Et en fait, cette démarche, pour répondre aussi au collègue Gatier, c'est plus, comment dire, une remise à niveau de ce qui nous faisait défaut en interne. C'est vrai que Marie-Pierre Montoro l'a rappelé, beaucoup de collectivités s'en sont déjà pourvues. Et nous, c'est plus un rattrapage d'un document qui nous fait défaut, surtout par rapport à la taille de notre commune. D'ailleurs, assez cocasse que ce soit des collégiens qui nous aient un peu
rappelé alors
le chemin. Voilà.
Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote sur ce plan communal de sauvegarde. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Aucune, génial, merci. Thibaut Guigue, est-ce qu'il est là, Thibaut? Je ne l'ai pas. Oui, je l'ai vu. Thibaut, toi, tu nous parles d'un autre truc qui est dans un champ un peu différent, mais malgré tout, sur le principe, ça, on est un peu dans la même chose. C'est la mise en œuvre du document unique d'évaluation des risques professionnels, cette fois.
Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, monsieur le maire. Je suis là, vous m'avez même grondé parce que je n'allais pas m'asseoir assez
vite.
Oui,
c'est vrai.
On parle donc de la mise en œuvre du document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce document a été créé par décret le 5 novembre 2001. Il est obligatoire pour toutes les entreprises, administrations et associations. Il permet de transcrire les résultats de la démarche de prévention des risques professionnels de la collectivité. Mis à jour au moins une fois par an, il doit être revu après chaque accident du travail. Le document unique facilitera la mise en place de plans d'action destinés à supprimer ou réduire les risques professionnels. Le Centre de gestion de la Savoie interviendra pour nous aider dans sa rédaction, en collaboration avec la direction des ressources humaines et notamment le conseiller de prévention, ainsi que les membres du CHSCT, le médecin de prévention et les chefs de service, ainsi que les agents. Cette approche pluridisciplinaire et participative permettra une évaluation globale et exhaustive des risques prenant en compte des situations de travail réelles. Plusieurs étapes ont été définies pour une rédaction définitive attendue en 2019. C'est un travail de longue haleine. Le conseil municipal, par cette délibération, autorise le maire à signer tous les documents nécessaires.
Merci Thibault. Est-ce qu'il y a des questions sur ce document ? Non, pas de questions, pas d'opposition ni abstention, je n'en vois aucune, je vous remercie. Le rapport est donc adopté à l'unanimité. Et Thibault, maintenant tu nous parles encore de la mise à disposition de personnel par le service remplacement du centre de gestion. Tu nous en dis un petit peu plus.
Pour assurer la continuité du service ATSEM lors d'absence de certains agents, la ville fait actuellement appel à ses agents d'animation du service périscolaire. Afin d'assurer la continuité du service ATSEM sans déséquilibrer les autres services et garantir ainsi une sécurité contractuelle, il est envisagé les dispositions suivantes. Tout d'abord, mettre en place un délai de carence de 24 heures par jour ouvré avant tout remplacement. Ensuite, pour les remplacements de courte durée, environ une semaine, quelques agents du service scolaire volontaire et prioritairement titulaires du CAP Petite Enfance seraient ciblés spécifiquement, ce délai de 24 heures permettant au service de s'organiser. Ensuite, pour les remplacements plus longs, sans toutefois excéder entre un ou deux mois, je note d'ailleurs qu'il y a un problème de rédaction dans mon document, je ne sais pas si vous l'avez vous aussi, il est marqué « emplacement » et non « remplacement », il conviendrait de solliciter le service de remplacement du centre de gestion de la Savoie qui dispose d'ATSEM titulaire ou d'agent titulaire du CAP Petite Enfance qu'ils mettent à disposition des collectivités pour faire face à des besoins temporaires. Enfin, au-delà, il serait fait à des ATSEM en contrat à durée déterminée. Une convention de mise à disposition entre la ville et le centre de gestion de la Savoie doit être mise en place, qui mentionne notamment les modalités financières qui s'établissent à 7% du salaire et des charges patronales versées à l'agent. Ces frais peuvent faire l'objet d'une revalorisation par le conseil d'administration du centre de gestion au 1er janvier de chaque année. C'est pour nos services une décision assez importante qui va offrir plus de flexibilité tout en diminuant la pression qu'on peut mettre à nos agents.
Merci Thibault. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport, André?
Moi, évidemment, je m'opposerai au délai de carence de 24 heures parce que ça voudrait dire qu'on laisse l'instit seul dans sa maternelle avec quelquefois 30 gamins, 30 bambins. Et un accident, ça peut arriver le premier jour, à la première heure, comme le dernier jour. Donc ce délai de carence, moi je suis absolument contre. On est une commune qui a tenu à garder 487 emplois statutaires malgré tous les transferts qui se sont passés à Grand Lac. Je m'en félicite, hein, c'est bien. Mais voilà, je suis contre.
Très bien, merci André. Pas de remarques particulières, on comprend si, ta
s'il
remarque.
Vous plaît.
Qu'est-ce qui veut parler, Pascal?
Oui, pour répondre un petit peu à André, je peux comprendre son questionnement par rapport à la carence, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que sur les groupes scolaires, lorsqu'une ATSEM s'absente le matin, en général, les enseignants se répartissent les élèves sur les premières 24 heures sans difficulté. C'est ce qui se passe très très souvent dans toutes les communes. Et ensuite, donc, vu qu'on va prendre le relais, ça me semble un bon système, dans le sens où derrière, on est sûr de pouvoir couvrir sur une période courte tout d'abord, et ensuite en faisant appel au centre de gestion sur un remplacement plus long. Les difficultés, elles pourraient venir d'une toute petite école, où en effet, il n'y aurait qu'une classe ou deux, ce qui n'est pas notre cas. Et donc, je pense que le problème est vraiment moindre.
Merci Pascal. Je vous propose de passer au vote sur ce rapport donc numéro 7 concernant donc la mise à disposition de personnel par le service remplacement du centre de gestion dans les conditions que Thibault a expliquées. Qui s'oppose à ce rapport? Donc 2. Qui s'abstient? Aucune. Je vous remercie. Le rapport est donc adopté. Christiane Mollard, tu nous parles toi aussi d'une forme de régularisation sur l'ancienne piscine.
Oui, monsieur le maire. Donc, il s'agit de l'ancien centre aquatique. Il convient de mettre fin à la disposition de Grand Lac, les anciens bâtiments du centre aquatique, transférés en 2010, mais reconstruits depuis intégralement par la communauté d'agglomération. La ville procédera ensuite à la sortie de ses biens de son inventaire.
Oui, voilà. Donc là, on est sur de la régularisation. On n'aura pas tout à fait le même type de rapport, mais un peu quand même sur l'aquarium, bientôt avec un transfert dans le domaine public de l'agglo, pour essayer d'être conforme à la réglementation. Donc sur cette régularisation sur les bâtiments du centre nautique, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, pas d'opposition ni abstention. Génial, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Evelyne Forner, tu nous présentes quelques mesures comptables.
Oui, monsieur le maire, bonsoir à tous. Il s'agit de 3 mesures comptables. Ça concerne l'attribution des subventions aux associations et autres bénéficiaires, conformément aux dispositions prévues par le Code général des collectivités territoriales, article L2311-7. Il est proposé d'adopter l'attribution de subventions à certaines associations ou personnes physiques. Ensuite, admission en non-valeur et créances éteintes. Les créances éteintes s'élèvent à 8499,77 euros pour le budget principal. Troisièmement, conservatoire, tarif 2017-2018, additif. Il est proposé au conseil municipal de compléter sa délibération du 26 juin 2017 portant tarif du conservatoire pour 2017-2018 suite à une erreur matérielle. Rétablissement des frais de dossier de 15 euros par élève omis dans la dernière délibération.
Merci Evelyne. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ces 3 mesures? Oui, André.
Oui. Dans les délibérations qui attribuent des subventions, j'ai trouvé la subvention à Radio X. Moi, comme pour toutes les associations qu'on subventionne ou qu'on finance, j'aimerais quand même qu'un jour ou l'autre, on ait un petit rapport d'activité. Qui ça touche, combien d'auditeurs, quel impact sur la ville. Parce que moi, bon, j'ai peut-être des mauvaises fréquentations dans mes amis, mais je n'en connais pas un qui écoute Radio X.
Il faut que tu fasses la pub.
Il faut que je fasse la pub. Voilà, c'est la réponse à ma question.
très bien. D'accord, oui. Non, mais de toute façon, d'une manière générale, tu as raison. Même la Chambre des comptes nous dit qu'il faudrait que vous soyez plus demander des comptes de ce que font vraiment les assos. Bon, donc c'est vrai pour Radio X comme pour les autres. Donc tout ce qu'on peut avoir en effet comme élément d'info, on leur signalera. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Peut-être Jean-Claude, tu ne prends pas part au vote puisqu'il s'agit de ton vélo électrique en partie. Si. Vas-y, prends le micro, ça va lui faire plaisir.
Je voulais féliciter Jean-Claude que j'ai trouvé dans la liste des vélos à 250 euros subventionnés. Je trouve que c'est bien, c'est un exemple Non, plus globalement, je trouve que c'est une bonne démarche parce que de plus en plus d'Aixois s'y intéressent. Et il est le leader ou pas dans le conseil municipal?
Non, il y a Gatier. Il y a...
Madame Gatier.
Madame Gatier. Bah alors attends, c'est non. Pas bon. Hein.
Non, mais voilà, c'est très bien. J'espère que tu n'as pas acheté un vélo chinois, par contre.
Non.
Ah bon. Oui, mon Dieu. Bien. Jean-Claude, donc tu ne prends pas part au vote. Hein. Donc, je vous propose de passer au vote, sachant que Jean-Claude Cagnon donc, ne prend pas part au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Trois abstentions? Ok. Vous ne voulez pas que Jean-Claude pédale, alors, c'est ça le truc. D'accord, très bien. Merci à vous tous. Merci, Evelyne. On passe, Reynald Vial, à la question suivante, qui est aussi un peu technique, sur la durée de nos amortissements.
Oui, merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Les durées d'amortissement sont fixées, sauf exception, pour chaque bien ou catégorie de biens par délibération de l'Assemblée délibérante. Il est proposé de revoir les durées d'amortissement pour les biens acquis à partir de 2017.
D'accord, je te remercie. Bon, vous avez tous les détails dans le rapport, en effet. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions, pas d'opposition ni abstention. Merci de ta concision, Reynald. Je crois que tu vas avoir battu le record de la soirée sur la rapidité de présentation. Donc, le rapport est adopté à l'unanimité. Marie-Pierre Montoro, tu reviens en scène, si je puis dire, pour nous parler, pareil, de régularisation d'amortissement dans le cadre de du transfert de la compétence eau potable à l'agglo, Marie.
Oui, il s'agit de régulariser quelques amortissements sur notre inventaire. Un inventaire des biens qui ont été transférés à Grand Lac au 1er janvier de cette année. Et donc, il y a un travail assez fastidieux qui a été fait. Donc, il faut procéder à des écritures de régularisation. Donc, ce sont des écritures qui ne sont pas budgétaires. Et c'est effectué par le trésorier. Donc, vous avez la liste de tous les biens avec les amortissements. Voilà.
Très bien, merci. Marie, est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Un peu technique encore. Pas de questions, pas d'opposition ni d'abstention. Génial, je vous remercie. Marie, enfin, je crois que c'est le dernier rapport que tu nous présenteras de la soirée. Cette fois-ci, c'est toujours sur le transfert de la compétence eau potable. Il s'agit de, pour la bonne forme, de mettre à disposition des biens et des droits et obligations afférents à ces biens.
Oui, il s'agit de formaliser ce transfert de compétences. Et qui dit transfert des compétences, dit mise à disposition de biens. Aussi le transfert des résultats. On avait délibéré il y a déjà quelques temps sur ces éléments-là. Vous le retrouvez aussi dans le procès-verbal qui est annexé à la délibération. Donc il y avait un résultat qui était positif sur la section de fonctionnement et un résultat négatif sur l'investissement, mais globalement c'était excédentaire. Donc ça a été repris par Grand Lac, comme pour les autres communes concernées par ce transfert. Et puis vous avez également sur le procès verbal la liste des emprunts dont le remboursement est désormais assuré par Grand Lac. Donc il y a 12 emprunts. Ces 3 millions d'euros d'encours qui avaient été transférés à Grand Lac. Voilà. Donc, il faut formaliser cela par un procès verbal.
Merci, Marie. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Pas de questions? Pas d'opposition ni abstention? Je vous remercie. J'en profite pour remercier Marie-Pierre pour la superbe défense des intérêts de notre secteur à la région, où nous avons été reçus la semaine dernière avec Michel Frugier notamment, dans le cadre du plan Grand Site, puisque notre Grand Lac a été labellisé parmi les 14 ou 16 grands sites régionaux.
Et en fait, il y en a 25 qui ont reçu le label. Oui. Dans les 25, il n'y a que 14 sites qui vont avoir un soutien financier pour des projets. Voilà. Les autres sont bien labellisés et c'est plus dans la promotion. Mais Grand Lac a eu assez de chance d'avoir deux projets soutenus par la région de manière assez conséquente.
Voilà, deux de nos beaux projets là, sur la réouverture des gorges du Cierrose, que les plus anciens n'ont pas dû connaître ouvert. Si, tu as connu, vous avez connu. Et également sur l'aménagement du secteur de la Croix-Verte. Au Bourget, avec la redécouverte du château de Thomas II, des espaces un peu naturels, zones humides. Ça doit être deux très beaux sujets. Donc un grand merci, parce que C'est de l'ordre de 2 millions d'euros, je ne sais pas si on peut déjà le dire.
Oui, comme ça, ça engagera officiellement la région à les donner. Voilà. C'est bien.
Et évidemment, c'est précieux dans les plans de financement. Un grand merci.
Je veux juste dire simplement, là, j'associe comme le département, parce que le projet a été vraiment présenté département au niveau du département de la région, pour que cela puisse vraiment être retenu.
C'est d'ailleurs un peu un signe des temps, je l'ai dit l'autre jour à la région, là, que la Savoie choisisse comme grand site, alors que c'est un département de grands sites au pluriel et de grands sites alpins en particulier, choisissent le secteur du lac comme son dossier phare à présenter à la région. Merci Marie. Avant de donner la parole à Renaud Beretti, et puisqu'il vient d'arriver au déboté, je vous propose de régulariser notre ordre du jour en donnant la parole à Jérôme Darvet, qui doit nous présenter, tu l'as sur la table, Jérôme, j'imagine, la vente d'un terrain monté des carrières romaines. De quoi s'agit-il, Jérôme ?
Merci, monsieur le maire, excusez-moi pour mon retard. La vente d'un terrain 6 monté des carrières romaines. La ville est propriétaire d'un terrain d'environ 1 ar 63 centiares monté des carrières romaines, attenant à la parcelle bâtie appartenant à madame Stéphanie Daldosso et monsieur Pierre Nagel. Ces derniers ont proposé à la ville d'acheter le bien communal, qui est une bande étroite et envahie par la végétation. L'avis de France Domaine a été sollicité et conclu à une valeur vénale de 500 euros pour un bien inconstructible du fait de son classement au PLU, zone N, et de ses caractéristiques physiques. Le conseil municipal est invité à céder le bien à madame Stéphanie Daldosso et monsieur Pierre Nagel pour 500 euros.
Merci Jérôme, on regrette pas d'avoir attendu que vous arriviez. Est-ce qu'il y a des questions sur ce bien ? André.
Oui, bonsoir Jérôme, je te cueille à froid. Alors, cette bande de terrain, moi elle m'interpelle, parce qu'elle est en dessous du terrain de madame et monsieur que tu viens de citer. Par contre, elle pourrait desservir les trois parcelles suivantes, 141, 142, 143, bien visibles sur le plan, qui pourrait devenir constructible et pourrait être desservi par un chemin d'accès. Et à ce moment-là, ce chemin, il vaudrait beaucoup, 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 beaucoup plus que 500 euros. Mais c'est qu'une supputation de ma part.
Est-ce que Gilles, tu sais nous en dire plus ? Gilles Mossin, tu peux te lever pour nous raconter un peu cette histoire-là ?
Donc elle ne permet pas un passage motorisé.
Je connais des bandes étroites qui desservent des lotissements.
D'accord. Très bien, merci Gilles pour ces explications. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Aucune. Je vous propose de passer au vote sur ce rapport. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Tu t'opposes carrément ? Fatia aussi, deux oppositions. Abstention ? Aucune. Je vous remercie. Le rapport est donc adopté. On revient à l'ordre du jour normal. On est à la question 13. Et c'est Renaud Beretti qui nous présente le traditionnel rapport sur l'état de notre dette.
Oui, monsieur le maire et chers collègues, oui, c'est vraiment traditionnel sans être formel, parce que c'est à la fois informatif pour nous informer sur la gestion de la dette, mais aussi vous proposer le renouvellement de la délégation au maire afin que celui-ci puisse continuer à lever les emprunts prévus au budget. Alors, la gestion de la dette en 2016 est assez simple. Vous savez qu'habituellement, on a une trentaine d'emprunts en cours. Généralement, on réemprunte un euro pour un euro remboursé. Cette année, nous avons, trois grandes orientations. Seulement 2,5 millions ont été levés en 2015 sur les 5 millions qui étaient prévus au budget, 5 millions d'emprunts. Une avance de 2,5 millions qui, vous en souvenez, a été consentie à la SAS pour l'aménagement de la ZAC, donc un prêt qui, évidemment, devra être remboursé. Et surtout, je dirais, c'est un point assez singulier, pour 2016, aucun emprunt n'a été levé. Donc, on poursuit notre stratégie de désendettement. Vous vous souvenez, le montant global de 42 millions. À l'origine. J'ajouterai à ça deux emprunts ont été remboursés de manière anticipée, un remboursement d'un montant global de 1,6 million. Donc ce sont des chiffres que vous retrouvez, bien sûr, annexé au rapport qui est en votre possession. Et donc, au final, nous pouvons avancer un encours au 31 décembre 2016 limité à 36,5 millions d'euros. Et en fait, comme je viens de vous l'expliquer, 34 millions, si l'on tient compte donc, de l'avance qui a été faite à la SAS et qui, bien sûr, a vocation à nous être remboursée. Je précise également que cet encours de 34 millions est totalement sécurisé, c'est bon de le rappeler, hein, par rapport à ce qui a pu se passer dans d'autres communes, puisque ces emprunts sont classés en 1A et en 1B sur l'échelle de risque de Gisler, hein, bon, qui est un peu l'échelle de référence, hein, pour la sécurisation de nos emprunts, et que le taux moyen de cette dette est de 2,86% et se répartit, pour être complet, entre 11 banques. Donc vous voyez qu'il y a une diversification et une sécurisation de nos emprunts. Bon, je ne répète pas qu'il n'y a pas d'emprunts toxiques, évidemment, dans nos emprunts. Voilà, donc ça, c'était le premier point, donc l'état de la dette, de la gestion de la dette. Et le deuxième, donc, qui est sous la forme du vote, hein, il vous est proposé de renouveler la délégation du maire pour lever les emprunts pour les exercices 2017 et 2018 dans les mêmes conditions que les années précédentes, avec en particulier l'obligation de respecter donc une consultation systématique des établissements partenaires, une durée maximum de 30 ans pour contracter les emprunts et de choisir des emprunts non risqués qui sont classés entre 1A et 1C sur la grille de Gisler. Voilà, et pour conclure, donc il y aura 3,8 millions qui sont prévus au budget 2017 de la ville et qui seront mobilisés d'ici la fin décembre, en tout ou en partie, selon l'avancement de nos travaux. Voilà, monsieur le maire et chers collègues, de manière la plus synthétique possible, la situation.
Merci, Renaud. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport sur l'état de la dette et la manière de la gérer ? Aucune. Simplement, peut-être pour une indication qui, je pense, ne sera pas démentie, on est sans doute un peu en bout de l'exercice. On ne va sans doute pas descendre beaucoup plus bas qu'entre 30 et 35 millions d'euros. Parce qu'après, ça nous pose le problème de la capacité de réinvestir. Parce que chaque année, on rembourse du coup moins de capital. Or, le remboursement du capital nous permet de lever un emprunt nouveau, donc plus faible. Et donc, on finit par plus pouvoir investir ce qui nous semble nécessaire. Donc, on va sans doute plutôt faire une pause, comme dirait l'autre, sur ces sujets de remboursement. On va rester dans ces eaux autour de 30, entre 30 et 35. Et on va essayer, par contre, plutôt de rétablir les marges d'autofinancement que le plan d'assèchement là, auquel on a été soumis dans les 5 ans qui viennent de s'écouler a complètement mis à plat notre capacité de notre autofinancement, qui est aussi un élément de financement de nos investissements. Donc on va essayer plutôt de rétablir, mais c'est une grosse gymnastique, cet autofinancement. Sur le rapport présenté par Renaud, bon, sur l'état de la dette, je crois qu'il n'y a pas à voter. Par contre, effectivement, sur la délégation que vous donnez au maire pour le recours à l'emprunt et à la gestion active de la dette, là, il y a un vote à émettre. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions ? Aucune. Je vous remercie de votre confiance. Pascal Peller, tu nous parles d'un marché qui est très important, qui va être relancé, qui est le marché de fourniture de repas pour nos restos scolaires, les crèches et accueils de loisirs, Pascal.
Oui, donc le marché actuel de fourniture de repas en liaison chaude, donc pour les restaurants scolaires, les crèches et les accueils de loisirs, va arriver à échéance le 31 août 2018. Il convient donc de lancer une nouvelle procédure de consultation afin d'ouvrir davantage le marché à la concurrence, d'améliorer la qualité des prestations et d'obtenir un meilleur rapport qualité-prix. La ville a donc décidé d'investir et de faire les travaux nécessaires pour que les repas puissent être livrés en liaison froide. L'accord cadre sera conclu pour une durée de 1 an reconductible 3 fois. Le maire ou son représentant doit être autorisé à signer l'accord cadre qui sera attribué à l'issue de la procédure, ses éventuelles reconductions ainsi que tout document s'y rapportant.
Merci Pascal. Question très importante à laquelle sont sensibles nos familles. Est-ce qu'il y a des questions à Pascal sur cette affaire ? Pas de questions particulières, vous attendez de voir un peu comment ça va se passer, qui va soumissionner, etc. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Aucune. Je vous remercie de cette belle unanimité. Alors là, après, on a toute une série de rapports sur des garanties d'emprunt au profit de bailleurs sociaux. C'est Corinne qui nous présente le premier sur la garantie d'emprunt au profit de la Solar pour le Matisse, Corinne.
Alors, c'est une garantie d'emprunt qui concerne 46 logements. Donc la ville propose d'accorder sa garantie à hauteur de 50% pour un prêt de 4 198 269 euros. Consenti par la Caisse des dépôts à la Solar afin qu'elle finance la construction donc, de 46 logements sur le bâtiment Le Matisse à Aix-les-Bains.
Merci Corinne. Est-ce qu'il y a des questions sur ces garanties d'emprunt? Oui André.
Oui. Je ne suis pas historien de la mairie, mais y a-t-il un précédent où la caution de la ville a été engagée dans ces cautions-là?
Bonne question. Corinne.
Non.
Voilà. Non, aucune.
Et est-ce que, deuxième question subsidiaire, comment ça se fait que ces bailleurs sociaux ne sont pas assez solides pour être obligés d'avoir recours à une caution de la ville?
Corinne.
C'est symbolique, à chaque fois c'est moitié le département, moitié les communes. C'est plus pour engager dans le dialogue, mais il n'y a jamais eu de défaut qui a été constaté. Après, il y a des questions aussi qui se posent de savoir si, compte tenu du fait que la compétence logement est aux intercos, si ce ne serait pas plutôt aux intercos de se porter caution. Mais,
voilà, effectivement, c'est quand même une bonne question parce qu'on est engagé sur des garanties tout autour du ventre. Il y a d'ailleurs une limite imposée par la loi Galland, non c'est ça n'existe plus, ça pas sur le logement social.
Pardon.
Voilà, donc pardon. En tout cas... Excuse-moi, Serge.
Oui, je voulais demander si on connaissait la somme globale que l'on cautionne en ce moment. Parce que cautionner, est-ce qu'on ne va pas un jour déborder?
Oui, on connaît même à l'euro près cette somme. Peut-être que Pierre-Jean, tu peux nous la donner? 55 millions d'euros de caution, à peu près.
Hein? Mais les cautions tombent au bout de combien de temps, à peu près? Quand le programme est fini?
Bah, quand l'emprunt est remboursé.
Ouais. Quand ils ont fini de rembourser.
Voilà, donc je ne sais plus si j'ai fait voter le Matisse, là, pas encore. Hein. Donc sur la garantie d'emprunt accordée à la Solar pour 46 logements sur le programme le Matisse, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Aucune, et je vous en remercie. Joachim Torres, toi tu fais un peu le même rapport, mais sur un programme un peu plus gros, toujours pour la Solar aux eaux vives.
Merci Monsieur le Maire, bonsoir chers collègues. Donc là, oui, c'est pour une garantie d'emprunt au bénéfice de la Solar pour la construction de 72 logements, le hameau des eaux vives. La ville propose d'accorder sa garantie à hauteur de 50% pour un prêt de 7 272 022 euros consenti par la Caisse des dépôts et consignations à la Solar pour la construction de 72 logements collectifs, le hameau des eaux vives. Des eaux vives, pardon.
Ouais, je crois qu'on peut faire la liaison.
Oui.
C'est fini, Joachim ?
C'est fini.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? C'est un peu les mêmes questions, j'imagine. Les mêmes remarques sur le rapport précédent, pas de questions particulières, ni opposition, ni abstention. Super, toujours un peu pour les mêmes choses. Cette fois-ci, c'est Claudie Fraisse, c'est plus la Solar, c'est l'OPAC, et c'est aux mouettes, Claudie.
Oui, merci Monsieur le Maire. Bonsoir, chers collègues. La ville propose d'accorder sa garantie à hauteur de 50% pour un prêt de 105 890 euros, consenti par la Caisse des dépôts et consignations à l'OPAC, pour la résidentialisation des abords de l'immeuble Les Mouettes à Aix-les-Bains.
Merci, Claudie. Est-ce qu'il y a des questions? Cette fois-ci, il ne s'agit plus de construction, mais de résidentialisation sur un immeuble qui existe. Pas de questions particulières, ni opposition, ni abstention. Super. Enfin, Georges, c'est pour alors une nature un petit peu différente cette fois-ci. C'est la garantie au profit des papillons blancs pour l'acquisition d'un bâtiment avenue de Saint-Simon. Georges.
Exactement. Merci, Monsieur le Maire. Bonsoir à tous. Donc, la ville propose d'accorder sa garantie à hauteur de 50% pour un prêt de 750 000 euros consenti par le crédit coopératif à la PUI des Papillons Blancs pour l'acquisition et aménagement du bâtiment avenue de Saint-Simon afin de réinstaller les services du CESAD et du SAVS.
Super. Merci, Georges. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Pas de questions, opposition, abstention, aucune, formidable. Jean-Claude Cagnon qui va nous parler d'un rapport qu'il adore sur les affouagistes, les coupes d'affouage, Jean-Claude.
On attend ça toutes les années. Dans le cadre des coupes de bois à asseoir en forêt communale d'Aix-Corsuet, il est demandé à l'Office national des forêts de procéder au martelage des bois pour un volume estimé à 180 mètres cubes. Ces coupes sont destinées à l'affouage et les bois délivrés sur pied. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation des opérations de coupe et de délivrance du bois en forêt communale sur les parcelles citées ci-dessus. Je te rassure, tu n'es pas obligé d'y aller tous les dimanches avec ta tronçonneuse.
Hein. Ah bah c'est bien.
D'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ces opérations.
Merci Jean-Claude. Est-ce qu'il y a des problèmes sur ces affouages, ces coupes d'affouage? Non? Pas d'opposition ni abstention? Super, merci. Hadji, toi tu nous parles de l'écomobilité.
Oui, alors... C'est journée de l'écomobilité, c'est une demande de subvention et signature de la convention. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à solliciter une subvention de 900 euros auprès de l'État et du conseil départemental pour la journée de l'écomobilité organisée place Mollard, Maurice Mollard le 26 avril 2017 et qui s'intègre dans le plan départemental d'action de sécurité routière. Signer la convention d'attribution et plus globalement tout document se reportant à cette action.
Merci Hadji. Est-ce qu'il y a des questions sur cette affaire? Pas de questions, ni opposition, ni abstention. Merci beaucoup. Jean-Marc, toi tu évoques des questions de travaux d'enfouissement de réseau électrique, Jean-Marc Vial.
Oui, tout à fait monsieur le maire, merci, bonsoir à tous. Il est rappelé au conseil municipal que la compétence réseau électrique a été transférée au syndicat départemental d'énergie de la Savoie, le SDES, lors de l'adhésion de la commune. Ce transfert de compétence est aussi valable pour la maîtrise d'ouvrage sur les travaux concernant le réseau concédé à ERDF. Il est proposé d'autoriser le SDES à lancer les études sur les projets d'enfouissement pour l'année à venir. Il convient que le conseil municipal autorise d'une part le maire à signer tous les documents nécessaires au bon déroulement des opérations programmées en 2018 et le SDES à commander les études pour les travaux définis ci-dessus.
Merci Jean-Marc. Est-ce qu'il y a des questions à Jean-Marc? Pas de questions particulières, ni opposition, ni abstention? Merci à vous. Marina, tu nous présentes le rapport un peu traditionnel, annuel, d'exploitation sur notre PPP éclairage public.
Merci, monsieur le maire. Donc, c'est le rapport annuel d'exploitation de notre PPP, comme vous l'a dit le maire, porté par Citeos. Donc, c'est un simple porté à connaissance. Alors, vous connaissez ce PPP qui a été signé en janvier 2011. Le rapport que vous avez eu et étudié, j'imagine, comporte deux volets, le bilan d'exploitation et le bilan financier. L'effet marquant sur 2016, c'est qu'il a été créé 69 points lumineux supplémentaires pour porter le nombre total de points à 6477, soit une augmentation de 398 points depuis l'origine du contrat. La consommation de référence est de 3716 MWh. Donc les mesures de conservation de l'énergie se décomposent principalement en maîtrise du temps de fonctionnement qui est de 4100 heures par an, en remplacement d'appareils existants par des luminaires disposant de meilleures performances photométriques, avec des sources lumineuses d'un bon rendement, des variations de puissance des installations en fonction de l'horaire. Alors l'objectif contractuel d'économie d'énergie à fin d'année 6 est de moins 31,8% par rapport à la consommation de référence. Les travaux d'investissement réalisés en 2016 ont généré quant à eux 1274 MWh QMAC de certificats d'économie d'énergie, soit 3445 euros versés à la commune au titre des recettes annexes. Et depuis l'origine du contrat, cela représente 13620 MWh QMAC, soit 61% de l'objectif.
Si tu le dis.
Je le dis. C'est le rapport qui le dit. La coordination des travaux a permis donc l'économie de 5 278 euros en 2016 qui ont été versés également à la commune au titre des recettes annexes. La mission de surveillance des installations transférées à la ville par avenant numéro 2 présente un montant révisé pour 2016 de 8 523 euros mis à la charge du partenaire. En 2016, le coût du kilowattheure, d'éclairage public a augmenté de 6,7% par rapport à 2015. Le coût de l'énergie a augmenté d'environ 70% depuis l'origine du contrat. Les travaux de modernisation de nos installations ont permis une économie d'environ 733 000 euros sur nos dépenses d'énergie sur toute la période. Voilà, les rapports ont bien évidemment été étudiés en commission finance et en commission travaux.
Merci Marina. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce rapport? Pas de questions particulières. 70% d'augmentation du coût de l'énergie depuis 2011, c'est dingue. Hein, c'est dingue. Enfin bon. Voilà, donc, oui, je crois. Hein? Ah ben, t'as de la chance. Est-ce qu'il y a des oppositions sur ce rapport? Ah ben, il n'y a pas de vote. Je suis idiot, il n'y a pas de vote. C'est juste un porté à connaissance du Conseil. Marina, toujours, tu nous parles de convention avec le département sur les routes départementales.
Oui, monsieur le maire, donc c'est un rapport qui vise donc à vous autoriser à signer une convention avec le Conseil départemental et avec la communauté d'agglomération Grand Lac, puisque Grand Lac poursuit son programme d'investissement pour améliorer l'accessibilité des transports en commun. Et donc, trois points d'arrêt doivent être aménagés. Donc, sur la RD 913, route du Revard, arrêt dit du Chenauze, sur la RD 991, avenue du Golfe, et sur la RD 1201, boulevard Charcot. Voilà, donc il vous est donc demandé d'autoriser le maire à signer ces conventions.
Merci Marina. André ?
Ce que je répète, ce que j'ai dit en commission, il y en a un qui me pose problème, c'est l'arrêt du Golfe. Juste au rond-point du chemin de la Laitière, l'arrêt qu'ils ont fait en partant sur le Vivier, il est vraiment accidentogène. C'est-à-dire qu'au milieu de la sortie du rond-point, il y a des bornes en ciment. Comment ? Non, je sais, mais il est cité là quand même.
Ouais.
C'est une compétence Grand Lac. Bien sûr, c'est pas chez nous. Quand même, s'il y a quelqu'un de chez nous qui se casse la figure en moto, en scooter.
Non, mais c'est vrai que c'est quand même. Moi, je suis d'accord. Peu importe, c'est pas chez nous, mais c'est mal foutu. Hein.
Ouais. Il y a un obstacle en ciment sur la chaussée. Je suis désolé, moi.
Je sais pas si c'est du ciment d'ailleurs.
Si, c'est du ciment. Alors, c'est des potelets ronds en ciment, mais qui sont en sortie de rond-point. Très accidentogène.
Écoute, on peut le signaler au service technique du département ou de Grand Lac.
Je sais que c'est pas chez nous. Hein. Voilà. Les Grands Lacs,
on est sur Drumette ou sur Vivier, là, je sais pas.
Ouais, c'est Grand Lac, mais.
Ouais. Ok, merci pour cette remarque de sécurité. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non, pas d'opposition ni abstention. Génial, je vous remercie. Merci Marina. Isabelle Moreau-Joannet nous parle de la reconstruction d'une passerelle piétonne en bois qui a brûlé au Petit Port.
La ville a procédé en 1989 à la réalisation d'un port de plaisance dénommé Port du Tillet dans le cadre de l'opération Renaissance du Tillet. Ce port, constitué de deux bassins, un de 55 places et un de 39 places, a nécessité pour sa réalisation l'interruption de deux voies de circulation terrestre sur le boulevard Barrier, sur le boulevard du Lac. La continuité des cheminements a été rétablie par la construction d'un pont en béton armé sur le boulevard Barrier et par une passerelle bois sur le boulevard du Lac, tous deux présentant une longueur de franchissement de 7 mètres. Par délibération du 23 février 1989, l'emprise du port a été transférée et incorporée dans le domaine public lacustre et sa concession accordée au syndicat intercommunal du Bourget du Lac. Suite à l'inspection de la passerelle bois assurant la liaison piétonne du boulevard du Lac, mais aussi l'accès aux véhicules attelés vers le slip de mise à l'eau, il a été constaté des zones de pourrissement de la structure de l'ouvrage qui a conduit à l'interdiction de circulation de tous les véhicules pour des raisons de sécurité. Dans le même temps, les services municipaux ont engagé l'étude pour la reconstruction de cette passerelle âgée de 28 ans qui présentera les mêmes caractéristiques géométriques et de tirant d'air ainsi qu'en ce qui concerne les caractéristiques structurelles autorisant la circulation des véhicules d'un poids total en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Le tablier de l'ouvrage sera mixte, métal-béton, pour une meilleure pérennité et des contraintes d'entretien moindres. Il ne sera autorisé qu'aux véhicules d'un poids total inférieur ou égal à 3,5 tonnes. À défaut d'une convention spécifique organisant la superposition domaniale entre l'État et la commune il ressort que ce pont, affecté à la circulation terrestre, est un ouvrage constitutif des voies publiques, dont il relie des parties séparées de façon à assurer la continuité du passage, et que la collectivité propriétaire de l'ouvrage d'art est la même que celle de l'infrastructure qu'il supporte. On ne met pas de virgule hein, dans tous ces trucs-là, on ne respire pas, hein, c'est ça ? Cet ouvrage assure également l'accès à la rampe de mise à l'eau par les véhicules attelés de remorque à bateau, activité relevant du périmètre de la concession des ports accordée à la communauté d'Aglo-Grand Lac. Aussi, conformément à l'étude, par les commissions municipales numéro 1 et 3, réunis respectivement le 11 et le 19 septembre 2017, il est proposé au Conseil municipal de solliciter auprès de la communauté d'agglomération Grand Lac une participation au financement de la reconstruction de l'ouvrage à hauteur de 50% du montant total hors taxe estimé au stade de l'AVP à 94 000 euros, soit une participation de 47 000 euros. Merci pour votre attention.
Isabelle, je crois que tu as été assez complète sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions, Isabelle ? André ?
Désolé de mobiliser, mais la première phrase, à mon avis, elle a une erreur, ou alors je suis perdu dans les dates. Hein. Est-ce qu'on a construit le port du Tillet en 89 ou en 2013 ?
Non, 89.
89. Alors Alors, il est dit que la constitution de ces bassins a nécessité pour sa réalisation l'interruption des deux voies de circulation terrestre. Là, on ne parle pas de la même chose, parce que c'est bien 2013, l'interruption des deux voies, que je déplore d'ailleurs.
Non, à l'époque, parce que tu sais, tu as la marina qui va devant les immeubles du petit port, qui coupe, en fait, le boulevard Barrier. Mais le passage a été rétabli. Le pont a été refait. Le pont automobile a été refait. Mais il y a eu, en effet, cette interruption. Mais là, c'est parce qu'Isabelle nous a fait de l'archéologie... politique. Normalement, on aurait pu se passer de ces détails. Alors, moi, j'ai simplement une question que Renaud Beretti voulait poser à Michel Frugier. On s'était jamais posé la question de savoir comment s'écrivait un slip de mise à l'eau. Toi, qui es un spécialiste des questions de mise à l'eau des bateaux, si tu peux mettre ton doigt.
Ouais. On dit un slipway, c'est un terme évidemment britannique. Et en fait, on doit employer le mot en français « plan incliné ».
ça nous parle.
Mais slip tout seul, ça veut absolument rien dire, c'est slipway.
Voilà, c'est pour ça que Renaud...
Ça veut dire autre chose.
Oui.
Voilà, c'est ça.
Renaud Beretti, notre sénateur suppléant, qui est un puriste en termes de vocabulaire, a fait remarquer que ça ne devait pas être possible que ce soit simplement un slip de mise à l'eau.
C'est vrai, il a raison.
Très bien. Alors, donc, sur ce petit pont de bois, là, qui est charmant, d'ailleurs, hein, au petit port, là, du côté de la station-service qui alimente les bateaux, et qui a donc brûlé, qu'il faut refaire, donc, dans les conditions qu'Isabelle vous a dit, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Non ? Pas de questions, pas d'opposition, ni abstention ? Tu t'abstiens ? D'accord. OK, André, pas de problème. Michel, justement, maintenant, c'est à toi de nous présenter l'avant-dernier rapport sur l'extension du parking du Grand Port.
Merci, Monsieur le maire. La ville souhaite programmer une deuxième tranche d'extension du parking dit des Suisses, qui pourrait être réalisée en début d'année 2018 pour augmenter la capacité de 150 places environ et porter ainsi le total à 400 places. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver les travaux d'extension du parking du Grand Port, d'approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 395 000 euros, de solliciter la région dans le cadre du contrat Ambition Région, le fameux CAR, au titre des aménagements d'espaces publics concourant à l'attractivité économique et touristique, d'autoriser le maire à faire les démarches nécessaires et à signer les documents correspondants.
Merci Michel. Est-ce qu'il y a des questions ? André ?
Je reste quand même sur mon idée que plus de places de stationnement en bordure de lac, c'est plus de voitures, et donc moins de transports en commun, et les habitudes ne se prennent pas, les bonnes habitudes ne se prennent pas.
Oui, Renaud, tu veux dire un petit mot là-dessus ?
Oui, on peut entendre ce que dit André Gymnèse. Bon, simplement, il faut rappeler qu'on essaye, grand port, petit port, de retirer les voitures du front de lac. C'était un peu l'objet de ce qui a été fait devant... l'ancien parking du Skiff, hein, au-delà du fait qu'il y avait une obligation réglementaire de fermer l'accès. Donc on a rendu ce secteur finalement à des usages de loisirs. On souhaiterait faire la même chose de l'autre côté, hein, côté grand port, enfin de, je sais pas comment localiser. Oui, voilà. Oui, enfin, tu sais, devant l'autre bar, hein, pour dire les choses.
Les voiles.
Oui, mais même plus loin. Non, de l'autre côté carrément.
Ah, bistrot du port.
Le bistrot du port. Voilà, pour qu'il y ait une sorte de parallèle entre ces deux espaces rendus à des loisirs et du coup recréer du stationnement en amont. Hein, donc c'est un petit peu l'objet tranche par tranche, en tenant compte, Michel, aussi du fait qu'il y a le camping Musilac et qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Et même chose côté entrée de ville, parking, piscine, plage. L'idée, c'est vraiment de bloquer les voitures là. Alors, tu as raison, hein, on est encore dans une phase intermédiaire, hein, entre les différents parkings de stockage vers les autoroutes, que celui qui va voir le jour à Grésy dans quelques temps, et puis nos bords de lac. Hein, bon. On peut dire aussi que se posera un jour, on a déjà abordé la question ici, la question du stationnement payant, c'est pas là maintenant, mais voilà, beaucoup de villes balnéaires avec des littoraux vont vers dans cette direction-là. Donc on le fait par étapes. Je précise que ce parking du Grand Port n'est pas complètement fini au sens aménagement, puisqu'il y a un petit peu comme sur les parkings de grande surface, même si la comparaison n'est pas bonne. Il y aura un système de guidage pour indiquer les places vacantes, hein, c'est avec des petits points verts ou rouges, parce que c'est vrai que c'est en plein été, quand il y a beaucoup d'affluence, c'est pas toujours facile, quand on s'est engagé dans une travée, de ressortir, hein, parce qu'il y a des voitures qui arrivent derrière et les voitures se trouvent coincées sans pouvoir sortir. Donc c'est comment ? Ah oui ?
Sac.
Voilà. Alors, ouais, c'est ça. Alors, imagine en plein été, quoi. C'est une problématique.
Bien, merci. Marina, tu veux rajouter un mot ?
Oui, juste pour compléter ce que disait Renaud et pour te répondre, André, on est quand même sur une zone très, très touristique sur le Grand Port. Et c'est vrai qu'on a vu les chiffres, je parle sous contrôle de Michel, au comité de direction de l'OT, c'est plus de 40 000 personnes qui sont accueillies au point de l'OT par mois en période estivale. Donc il faut bien évidemment qu'on soit aussi en capacité d'accueillir correctement les touristes qui viennent sur la destination pour qu'ils puissent se stationner. Voilà.
Merci. Peut-être un dernier mot pour demander à nos services, à Daniel Caille, de faire attention aux riverains sur l'extension du parking des Suisses. Il ne s'agit pas d'aller coller notre parking juste au ras des maisons. Donc moi, je suis demandeur qu'on garde une distance raisonnable pour que ça se passe, que la cohabitation se passe bien. Et par rapport à ce que dit André, nous, quand on dit libérer les bords du lac, c'est vraiment, tu vois, l'extrême bord du lac. C'est-à-dire, en effet, Renaud a évoqué le parking devant le Skiff. Se pose, à mon avis, et d'ailleurs, les restaurateurs commencent à la poser, la question du parking qui est devant chez Lille, là, enfin, ex-Lille, et puis celle qui est ensuite jusqu'au bistrot du port, jusqu'à Takamaka et tout ça. Bon, ça, c'est vraiment l'extrême bord de lac. Et si on veut arriver à ce que cet extrême bord de lac, les gens aillent se garer un peu plus loin, pour le coup, le parking des Suisses, il est quand même un peu en retrait. Et puis, on a un peu le même sujet plus au sud, hein, sur tous ces parkings qui sont quasiment sur l'esplanade, on peut dire. Bon, sur lequel, voilà, notre souhait serait petit à petit d'essayer en effet de faire retirer les gens, même s'il y a une problématique tourisme. Et en effet, une manière de le traiter serait peut-être par un système dissuasif de stationnement payant sur certains espaces où on ne souhaite pas que les gens viennent, et plutôt des stationnements gratuits, un poil plus en retrait. Bon. Pas très évident parce qu'il y a quand même de l'activité commerciale. Voilà, j'ai arrivé à concilier tout ça. Puis il y a beaucoup de riverains aussi. Pas évident. Thibault.
Ben, c'est le riverain que je suis qui.
On n'a pas le droit de s'exprimer pour des causes particulières.
Qui voulait dire un mot. Non, c'est pas des causes particulières parce que c'est un constat pour dire que c'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a le besoin. Le riverain, et je ne suis pas le seul riverain de ce lieu ici, a pu voir cette année que c'était la rançon de la gloire, et Marina l'a très bien dit, c'est assez fou. Enfin, je veux dire, par rapport à l'année précédente, on a eu le 15 août une dizaine de fois dans la saison, en termes de stationnement, en termes de densité. Donc on a une nécessité, et cette nécessité elle est augmentée par le succès que connaît la ville en termes de tourisme.
D'ailleurs, on a voté au conseil municipal il y a déjà je ne sais pas combien de temps, un tarif de stationnement payant, je crois, émeraude
ou je ne sais plus si c'est ce nom-là, justement pour que les riverains du bord du lac, le jour où on met le stationnement payant au bord du lac, puissent avoir, eux, un tarif préférentiel. Évidemment que ce sera moins le cas de ceux qui fréquentent la station de manière plus épisodique. Voilà. Donc, en tout cas, c'est une vraie question qui est soulevée là. Essayez de retirer un petit peu les voitures de l'extrême bord de lac. Il y a beaucoup de contraintes. Ce n'est pas évident de le régler, mais on va essayer de le faire petit à petit dans la meilleure concertation possible. Donc, sur ce rapport présenté par Michel pour l'extension du parking dit des Suisses, dans le respect, je le redis, des riverains, et en effet, Renaud a raison aussi dans le respect du camping de Musilac, parce qu'on commence à ne pas avoir beaucoup de lieux alternatifs, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Une abstention? Je vous remercie. Nicolas Poyeux nous présente le dernier rapport de la soirée sur, je crois, finalement, deux dénominations de voirie, Nicolas.
Tout à fait. Trois. Merci, Monsieur le Maire. Afin de répondre à l'obligation faite à la commune d'organiser l'adressage sur son territoire, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la dénomination de nouvelles voies. Une voie piétonne publique dans le quartier centre-ville et deux voies publiques pour le nouveau lotissement route de Saint-Innocent. Donc les noms, voilà. Donc le nouveau passage, il serait projeté pour desservir les logements de l'immeuble Le Dauphinois. Le nom proposé, le passage Mark Twain. Et deux voies publiques qui seront créées pour desservir les nouvelles habitations situées au droit du giratoire boulevard Gaston Molex, route de Saint-Innocent. Ça fera plaisir à Michel Frugier, la rue Tom Morel et la rue Rudyard Kipling.
Merci Nicolas. Alors Michel Frugier, ça fait longtemps que tu attends le Tom Morel. Michel est
en... Surprise! Bien, d'abord, je voulais remercier M. le maire, Renaud Beretti et tous ceux qui ont eu la bonne idée de donner à une nouvelle voirie le nom de Tom Morel. Tom Morel, je pense que beaucoup connaissent Tom Morel, le héros des Glières. C'était un chasseur alpin, lieutenant, qui était le patron, le boss du plateau des Glières. Donc, il avait 29 ans. Et pour un lieutenant, diriger 500 maquisards sur le plateau, c'était exceptionnel à l'époque. Mais c'était un des rares qui avait refusé de suivre Vichy. Il avait donc pris le maquis. Mais lui voulait libérer un coin de France. C'était le seul coin de France qui a été libéré pendant près de 4 mois, dans l'hiver 44, avec 500 maquisards, qui a permis d'ailleurs les parachutages, qui permettront de libérer, ces armes permettront de libérer la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, c'est un des seuls départements français qui s'est libéré par lui-même, avant que les Alliés arrivent. Et Tom, et la Corse aussi, oui. Et Tom Morel, en fait, c'est un héros tragique, parce qu'évidemment, c'était un militaire, c'était un maquisard. Mais surtout, il a eu l'intelligence d'accepter sur le plateau des Glières l'ensemble des maquis, ce qui n'était pas évident à l'époque. Les gaullistes, les communistes, il y avait les Espagnols qui fuyaient le franquisme, qui se sont retrouvés sur le plateau. Et ironie de l'histoire, il a été assassiné par un milicien, par un sbire de Vichy à Entremont, lâchement, quelques jours avant l'attaque du plateau. L'attaque du plateau par 5000 Allemands, ils étaient 500. Alors on a longtemps dit que Glières c'était une nasse, hein, ça aurait jamais dû être un combat. Mais Glières a été voulu par les résistants, par Jean Moulin et surtout par De Gaulle, pour montrer aux alliés que la France résistait et pour permettre le parachutage des armes. Donc voilà, c'est une bonne idée de donner une voirie en Savoie à un héros savoyard. Et ça fait plaisir à tous les chasseurs alpins, et notamment à moi, qui étais un ancien du 27e bataillon de chasseurs alpins, et j'étais dans le quartier de Tom Morel.
Merci Michel pour ce moment d'histoire que Serge Gatier va compléter.
Non, pas du tout. Pour l'histoire, avant le conseil municipal, on est tous passés devant le photographe pour le nouveau trombinoscope.
Oui.
Voilà. Et moi, j'ai regardé l'ancien trombinoscope et je me suis aperçu qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Fatia Brunetti.
Ah ! Il a toujours été attentif à ces questions-là, Serge. Bravo. Juste un mot pour remercier Nicolas, Renaud, en effet, et Michel. Michel qui est un admirateur total de Tom Morel, au point d'appeler son fils Tom, pour cette raison-là.
Alors, Renaud. Je rajouterais quand même une chose. En fait, Tom Morel ne s'appelait pas Tom Morel, il s'appelait Théodose Morel. Donc j'ai hésité entre Théodose et Tom.
Bon, t'as bien fait de prendre Tom.
Et finalement, il a eu de la chance.
Oui, Renaud.
Et juste pour compléter encore, pour relier avec l'actualité, il y a aussi, tu dois le connaître, le petit-fils, un des petits-fils, j'imagine, de Tom Morel, qui est officier alpin et que nous avons rencontré dans le cadre d'une des permanences sentinelles à Aix-les-Bains. Et que nous avions informé du fait que, voilà, à un moment donné, on ne savait pas quand à ce moment-là, une rue d'Aix-les-Bains serait baptisée avec l'accord du conseil municipal de son nom. Et évidemment, il a dit qu'il aimerait être présent ce jour-là. Donc je pense, Frédéric, qu'on doit pouvoir retrouver ses coordonnées facilement pour l'inviter le moment venu. Voilà.
Merci. J'ai encore une demande de parole, non pas sur Théodose Morel, ce qui aurait pu être le cas, parce que Georges Buisson a des racines grecques, donc Théodose, ça doit peut-être lui parler, mais il veut nous parler, Georges, de Mark Twain.
Oui, juste un petit mot sur Mark Twain, pour montrer que la ville n'est pas rancunière, parce que Mark Twain, effectivement, est venu en France en novembre 1891. Il a séjourné plusieurs mois à Paris, qui a trouvé une ville totalement détestable dans un climat épouvantable. Il a critiqué les Français en disant que c'était des gens qui avaient organisé la Saint-Barthélemy, bref, des gens pas fréquentables. Et puis, il est venu faire une cure thermale à Aix-les-Bains.
Et là,
quand il est arrivé, il a trouvé que la ville n'était pas si mal, mais très rapidement, il a dit que les clochers, ça sonnait dans tous les coins, qu'il n'y avait pas moyen de dormir, et que surtout, la cure thermale l'avait rendu complètement malade, parce qu'il était arrivé, il n'allait pas si mal, et quand il est reparti, il avait mal partout. Alors, nous, voilà, on n'est pas rancunier, on l'aime bien quand même. Mais enfin, c'était pas un fervent admirateur quand même de la France et d'Excellence.
Bon, je crois que je vais clore la séance parce que là, ça commence à déraper. Vas-y. Tu seras un homme, mon fils. Voilà. Poème remarquable, surtout pour les temps de défaite électorale. Très bien, merci. Sur ces trois dénominations donc de voirie, qui je pense effectivement nous font honneur, c'est moins cucu la praline que l'allée des glycines ou le truc des pervenches. Oui, mais ça, c'est pas ce que tu as fait de mieux. Est-ce que sur ces trois dénominations, il y a des oppositions ? Le vote est engagé, monsieur Beretti. Des oppositions, aucune. Des abstentions, aucune. Je vous remercie. Alors, on a reçu une question diverse que nous présente Fatia, je crois, qui a repris d'ailleurs quasi in extenso un courrier qui lui a été adressé sans même nous cacher l'identité du.
Oui, c'est vrai, parce que.
La provenance, Fatia.
On travaille en étroite collaboration avec Pierre-Louis, et voilà. Et donc, moi, je suis très sensibilisée déjà par cette lettre, parce que je suis habitante du quartier de Saint-Simon, et c'est vrai qu'on voit de jour en jour notre environnement se désagréger. Alors voilà, donc je vous présente cette lettre que je valide à 100%. Donc l'avenue de Saint-Simon, d'une longueur de 2,2 km, connaît un accroissement très important de la circulation automobile, de l'ordre de 4% par an. Les comptages font apparaître un flux de 4500 véhicules par jour au niveau du cimetière et de 9500 véhicules par jour au niveau de l'église de Saint-Simon. Un report important du trafic, environ 2 véhicules sur 3, s'effectue depuis et vers le boulevard Franklin Roosevelt au niveau de la rue Joséphine de Beauharnais. Ceci pour une avenue qui est une pénétrante et non une voie de transit. Les feux tricolores à ce niveau régulent très mal le trafic à 50 km/h. La partie nord de l'avenue est quant à elle une véritable autoroute. Très peu de contrôles de vitesse sont réalisés. Le trafic incessant, la pollution atmosphérique, la pollution sonore, les dangers liés aux vitesses excessives et l'éclosion de nombreux projets immobiliers nécessitent une sécurisation de cette pénétrante nord de la ville. Sans parler de l'image déplorable d'entrée de ville, frontage délaissé, affichage 4x3, circulation, pollution, risque d'accident lié à la vitesse. On peut se demander comment les promoteurs arrivent à vendre leurs projets sur plan. En décembre 2014, et à la demande de Jean-Jacques Molly, monsieur le maire, a confié la commission Ville Sereine à l'AXA le soin d'étudier les propositions établies par les services techniques municipaux sur le projet de rénovation de l'avenue Saint-Simon. Les services techniques ont ainsi défini 8 tranches de travaux le long de l'avenue. La commission Ville Sereine a apporté ses remarques et une première tranche zone 30, qui a été effectuée et très bien effectuée, a été réalisée au niveau de l'auberge de Saint-Simon début 2016, sur 200 mètres environ. Ces travaux améliorent en effet la qualité de vie des habitants à ce niveau de l'avenue. La commission Ville Sereine a fait des propositions pour poursuivre dans cette voie, notamment avec la création d'un quadrilatère zone 30, Beauharnais-Saint-Simon-Dunant, pour limiter le report de circulation. Bien qu'actée en compte rendu, cette proposition n'a connu aucune suite à ce jour. Donc, monsieur le maire, nous vous posons la question suivante. Puisque dans votre courrier, vous souhaitez travailler à l'amélioration de la qualité de vie des Aixoises et Aixois, habitants de l'avenue Saint-Simon et d'autres quartiers qui en ce moment sont assez remontés, et ceci en fonction des priorités et des possibilités financières de la ville, quelle est l'échéance des travaux concernant les 7 tranches qui restent et pour la rénovation et la sécurisation de l'avenue Saint-Simon d'ici la fin du mandat?
Merci Fatia. C'est Renaud qui va répondre à cette question.
Oui, merci de cet exposé, bon, qui ne peut pas obtenir une réponse brève, parce qu'elle mériterait un débat. Le constat qui est fait, bon, voilà, est réel, hein, et même si les termes employés sont parfaitement excessifs et d'ailleurs souvent contradictoires, puisque on peut pas à la fois l'avoir énormément de circulation dans ces pénétrantes telles qu'elles sont décrites, et en même temps des excès de vitesse. Ça paraît un petit peu contradictoire. S'il y a une augmentation de cet ordre-là, qui est exact, les comptages ont été faits régulièrement, le sont toujours, de environ 4% moyenne par an, ce qui d'ailleurs est une des conséquences de l'attractivité de la ville, il ne faut pas l'oublier, et dans des voiries qui n'étaient pas faites pour ça, c'est exact à l'origine, est lié aussi à l'augmentation de la population et à la densification dans les quartiers que vous évoquez, où vous habitez Fatia, moi aussi d'ailleurs, et plusieurs d'entre nous, Nicolas Verriot aussi notamment, Jérôme Darvet aussi. Donc on fait le même constat, mais constater les choses voilà, est important. Les solutions proposées sont beaucoup plus complexes à mettre en œuvre. Bon, d'abord parce que le quadrilatère que vous évoquez en question est sympathique, mais il ne serait pas en soi une réponse au problème, puisque le problème se fait dans la pénétrante depuis finalement Aix-Nord et les Coteaux et se répartit sur 4 voiries qui sont parallèles, le boulevard des Anglais, la rue des Fontaines, l'avenue de Saint-Simon et le boulevard Franklin-Roosevelt, où voilà, selon les heures, eh bien, ce trafic-là se répartit et, c'est vrai, engorge les rues. Une des solutions, je dis bien une des solutions, va être à partir de l'automne 2018, avec maîtrise d'ouvrage Grand Lac, enfin le lancement du chantier qui durera, on l'espère, un an, de desserte des Combaruches à partir du péage d'Aix-Nord. Donc ça fait plusieurs années importantes de travaux et de recherche de financement et de rachat de foncier. Donc voilà, ces dessertes importantes vont avoir lieu. L'autre aménagement possible, je ne dis pas que les aménagements concernant l'avenue de Saint-Simon sur cette tranche-là, on va dire autour de la hauteur de l'auberge de Saint-Simon, ne vont pas continuer, mais voilà, là, ils obéissent à des choix budgétaires. Hein, et on ne peut pas d'un côté constater la baisse des dotations et la maîtrise de notre fonctionnement et notre investissement en lançant des programmes routiers chaque année. Mais une des réponses, en plus de la desserte des Combaruches, pourrait être, pour casser la vitesse qui, elle, est authentique dans la ligne droite qui va de Grésy jusqu'à l'intersection du chemin de la baie, serait l'aménagement là d'accès avec donc soit une forme de giratoire ou en tout cas d'intersection, puisque là aussi, des projets immobiliers sont en cours, comme un petit peu partout dans le quartier. Donc effectivement, c'est un quartier qui évolue beaucoup et au sein duquel nous essayons de trouver des aménagements à la fois pour les piétons, les cycles, même si certains journaux considèrent qu'on fait des voies vertes sans cyclistes. Bon, c'est juste une anticipation et une façon d'amener les gens à utiliser ces voiries. Voilà, donc là, c'est pareil. On trouvera par ces deux aménagements une façon, mais qui ne sera pas la solution, mais qui devrait permettre d'améliorer la desserte du quartier, donc à partir de 2018, en tout cas pour les travaux. Voilà.
Merci Renaud. Moi je relance aussi l'idée, mais je ne sais pas si c'est adapté ici, puis nos services considère que tout ça n'est pas très sérieux, mais moi je pense qu'il y a certains secteurs de la ville où on ne peut pas régler, ou en tout cas il faudra des années et des années pour les régler, ces questions de circulation. Et il me semble qu'on pourrait peut-être faire appel à l'esprit de citoyenneté, on peut toujours rêver, d'un certain nombre de nos concitoyens, peut-être en mettant en place une signalisation ville sereine, qui n'est pas une signalisation code de la route, qui n'a pas de valeur engageante, mais qui permettrait peut-être, pour ceux qui sont les plus conscients de ces difficultés, d'orienter, de donner des propositions de circulation plutôt que d'autres. Je pense en particulier à un autre secteur, qui est le secteur du vieux village de Cornin, qui est très facile pour le coup à éviter, même si on ne peut pas obliger les gens à l'éviter, en passant par le rond-point du McDo, là, qui se fait 9 jours et demi sur 10, se fait très bien, sauf qu'il y a des réflexes qui sont pris, où les gens utilisent des voiries qui ne sont en réalité pas faites pour ça, sans même réfléchir. Donc je suis assez preneur, moi, de cette idée, je sais qu'elle n'est pas réglementaire, etc., mais d'une signalisation particulière, un peu citoyenne, faisant référence, pourquoi pas, à la ville sereine, trouvant une couleur différente et donnant des quelques, pas 3 milliards non plus, hein, mais quelques conseils de circulation. Donc sur ces sujets, je pense que là, pour le coup, on peut avancer assez vite. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais ça, c'est assez facile à faire. Alors que, comme l'a dit Renaud, tous les aménagements lourds de voirie coûtent souvent très cher et souvent ne font que reporter en réalité les sujets. Donc voilà, écoutez, la question évidemment reste ouverte. Merci en tout cas de l'avoir posée. Merci de votre attention. L'ordre du jour... Pardon ? Oui, je les ai vus aussi, mais on doit pouvoir faire mieux que ça. Merci en tout cas de votre attention et l'ordre du jour est épuisé. La séance est levée.